Léa Salamé, votre invité ce matin est philosophe et ami de l'écrivain américain Philip Roth.
Eh oui, bonjour Alain Finkielkraut.
Bonjour.
Pour Le Monde, il était un monument de la littérature, peut-être le plus grand écrivain américain vivant. Pour vous, il était aussi un ami. Vous dites que votre amitié avec Philip Roth a été l'une des chances de votre vie. En quoi ?
Je l'ai rencontré en 1980 lors d'un dîner chez Milan Kundera parce que j'avais lu un article dans Le Monde, un jour, je me souviens, en tête du Monde des Livres, un article de Milan Kundera sur Philip Roth. Et j'avais été absolument bouleversé parce que c'était mes deux écrivains préférés, comme disent les enfants. Je connaissais un peu Roth, mais Kundera, je n'avais pas idée de leur lien. Je lui ai dit mon émotion. Un jour où Philip Roth est venu à Paris, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et en effet, si vous voulez, c'est une chance extraordinaire pour moi que d'avoir pu être, d'une certaine manière, l'ami de ces deux hommes, les deux écrivains qu'on aime, parce que si vous voulez, bah oui, il y a les grands écrivains du passé, je peux pas avoir été l'ami de Flaubert, non. Ni de Proust, mais de ces deux-là, oui.
Quel homme il était?
C'était un homme d'abord assez semblable à ses livres, si vous voulez, c'est-à-dire un tempérament,
dur.
Non pas du tout, un tempérament très bagarreur, il parlait assez fort, il aimait énormément blaguer, et en même temps il avait une extraordinaire vivacité, une extraordinaire profondeur. Il pouvait aussi être parfois sévère, parce que je me souviens d'avoir fait deux entretiens avec lui, en 81 pour l'Obs, et l'autre beaucoup plus tard pour France Culture, et quelquefois il me renvoyait mes questions
en disant c'est
en
nul,
en faisant apparaître leur faiblesse, et notamment en 81, j'étais encore un tout jeune homme, nous venions de nous rencontrer, il savait décontenancer son interlocuteur qui tout d'un coup se disait qu'il était son adversaire parce que c'était un homme pugnace.
Oui, mais il vous aimait aussi puisque il vous invitait à ses 80 ans à la grande fête qui a eu lieu aux États-Unis dans sa ville natale de Newark. Vous faites partie des rares Français avec Josiane Savigno ou Marc Weitzman à avoir été invité. Et puis, vous envoyez tous ces manuscrits. C'est vrai que vous les annotiez ?
Non, ça se passait pas vraiment comme ça. Je ne sais pas où vous avez obtenu cette information, parce que je ne m'en targue jamais. Il est vrai qu'à partir de 82, quand il avait terminé un manuscrit, il l'envoyait à un certain nombre de ses amis. J'ai eu cette chance de les recevoir. Alors, il me les envoyait, je prenais des notes, je réfléchissais. Il me rappelait une semaine après, et donc moi, je me préparais. J'écrivais même, parce que je parle pas anglais comme je parle français, les observations que je devais lui faire. Et c'était, en effet, une des modalités de notre échange.
Il a raconté qu'il vous doit le mot « uchronie » qu'il a utilisé dans le complot contre l'Amérique. Oui. L'uchronie, c'est la réécriture de l'histoire à partir du changement d'événements passés.
Voilà, on change la temporalité.
Est-ce que c'est pas aussi la fin d'un monde? Au fond, on enterre avec Philip Roth la fin d'une certaine Amérique. Une Amérique qu'on aime, ironique, sexuée, libérale. C'est le New York d'avant
fric. Attention. C'est-à-dire, Philip Roth avait a dit sur Trump des choses extrêmement violentes et sans doute pertinentes, mais il ne faut pas, si vous voulez, le réduire à cet anti-Trumpiste tout à fait légitime et faire de lui le porte-parole
de
l'Amérique libérale.
Mais j'aurais même pu vous dire Obama. C'était l'Amérique d'avant.
On ne sait pas ce que... si vous voulez, le grand écrivain, ça relève du miracle. Donc d'autres grands écrivains vont pouvoir apparaître, mais je dirais qu'il était très important pour moi d'être le contemporain de Philip Roth, comme son ami, mais aussi comme son lecteur. Si vous voulez, j'habitais un monde où il était vivant, ça pouvait atténuer la mélancolie, et je déteste l'idée d'avoir aujourd'hui à parler de lui au passé. Mais son œuvre est tellement riche qu'on ne peut pas faire de lui le représentant de quoi que ce soit. C'est un explorateur extraordinaire de l'âme humaine.
La question juive était au cœur de son œuvre. L'humour désespéré, l'ironie, l'attachement à la mer. Pour vous, Roth, c'était un écrivain américain ou un écrivain juif ?
Lui disait qu'il était un écrivain américain. Dans mon premier entretien, je lui faisais état de l'image qui était alors la sienne, représentant avec Bello et Malamud de l'école juive de New York. Et ça le faisait bondir. Il avait une passion pour ces deux auteurs, mais il disait non. C'était avant tout un écrivain américain. L'Amérique était sa matière, mais effectivement, il était juif et il a exploré toutes les facettes, toutes les contradictions de l'identité juive jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il a été
considéré comme un traître par la communauté juive qui n'aimait pas ce qu'il disait des juifs.
Au tout début, bien sûr. Et d'ailleurs, il en a fait la matière de son œuvre. Je disais tout à l'heure que c'est un bagarreur, mais ce n'est pas un essayiste. Donc, au lieu, si vous voulez, de vider ses querelles dans ses livres, il les mettait en scène en donnant la parole à tout le monde. Il l'a fait dans les premiers Zuckerman et il l'a fait aussi pour ce qui concerne Israël. C'est peut-être le plus grand romancier d'Israël à travers deux livres fondamentaux, La Contre-vie, au grand moment de basculement dans son œuvre. D'ailleurs, il y avait un aspect polémique dans La Contre-vie parce que on l'embêtait tout le temps avec les Zuckerman. Zuckerman, c'est votre double, vous faites votre autobiographie déguisée, on en a marre. Alors il a dit bon d'accord, eh ben je vais faire La Contre-vie et dans La Contre-vie, Zuckerman meurt. Donc je suis mort et puis après il ressuscite. Donc je suis ressuscité. Et il y avait aussi Israël qui était très présent. Ouais. Et là encore, il ne prenait pas parti. Il était évidemment plutôt du côté de l'Israël, Israël laïque, libéral, etc. Mais il donnait la parole aux autres, aux adversaires, aux colons, de manière absolument extraordinaire.
Alain Finkielkraut, la pulsion de vie chez Roth passait-elle par le sexe? Le sexe est partout aussi dans son œuvre, surtout dans Portnoy et dans le théâtre de Sabah. Le corps des femmes, le désir, la masturbation, est-ce que c'est des passages qui vous plaisaient?
Ben, oui, bien sûr. Mais je dois dire, si vous voulez, qu'il a eu beaucoup d'ennuis, Philippe Roth. Dans Ma vie d'homme, il a dépeint une femme absolument monstrueuse. À une époque, il me l'a dit d'ailleurs, où toutes les femmes devaient être persécutées. Celle-là était persécutrice. Donc une violente campagne s'est élevée contre lui. C'est un écrivain misogyne. Et je pense que si Ma vie d'homme paraissait aujourd'hui, à l'époque Palace Tempore ou Me Too, à une époque où Cate Blanchett elle-même apparaît comme une victime, ça serait extrêmement mal accueilli.
Est-ce qu'il était misogyne?
Et c'est la raison pour laquelle...
Depuis hier, sur les réseaux sociaux, on reparle de sa misogynie. C'est la raison pour laquelle, notamment, il n'a pas eu le Nobel.
Exactement.
Alors, est-ce que selon vous, il était misogyne?
Mais pas du tout. Mais aucunement. D'ailleurs,
un professeur de Georgetown qui enseigne Roth depuis 20 ans dit oui, ses écrits sont misogynes.
Bah oui, mais les professeurs de Johnston,
Georgetown
ou ailleurs, l'université américaine est complètement sinistrée. Elle vit le désastre du politiquement correct. Et pour savoir ce que c'est que le politiquement correct, il faut lire La Tâche. Il n'est pas plus misogyne que Kundera, bien entendu. Mais l'un et l'autre n'ont pas lu le Nobel, si vous voulez, à cause de leur supposée misogynie. Ce qui discrédite absolument l'Académie de Stockholm.
Il avait ses idées sur le monde, vous le dites, sur Trump, sur Israël, sur les démocrates, mais contrairement à vous, j'ai l'impression qu'il cultivait une forme de distance ironique face au chaos du monde, là où vous, le chaos du monde vous écrase, vous angoisse. Est-ce qu'au fond, il souffrait moins que vous? Est-ce qu'au fond, vous ne lui enviez pas ça?
Non, je ne lui enviais pas ça. D'abord, il en souffrait beaucoup. Il en souffrait beaucoup. Les attaques dont il a été l'objet dans la communauté juive ont été pour lui absolument terribles. C'était un homme à fleur de peau, une sensibilité épidermique, mais il pratiquait l'ascèse du roman. Et dans le roman, il s'agissait de toute autre chose. Il s'agissait encore une fois d'une polyphonie qui mettait en scène toutes les voix.
Allez, un livre s'il faut en retenir un.
Alors je retiendrai pas forcément celui que je préfère. Celui que je préfère, c'est Pastorale américaine. Mais je voudrais que les auditeurs qui ne le connaissent pas très bien lisent Un homme. Un homme, c'est la biographie médicale d'un homme justement, Everyman. Et moi, j'avais proposé parce qu'il n'a pas de nom. J'avais proposé comme autre titre à Gallimard, mais j'ai pas été entendu. Tout un chacun. C'est Tout un chacun face à la mort.
Voilà. Merci, Alain Finkielkraut. Et belle journée à vous.